Grand Cirque. À la découverte des grands sites. Un reportage sur les terres de Midi-Pyrénées. Grand Cirque.
Tous au Larzac. C'est sur ce mot d'ordre que depuis des millénaires, ce territoire en apparence aride entre Méditerranée et Massif central est traversé, habité et façonné. C'est en tout cas l'empreinte d'un agro-pastoralisme millénaire qui lui a valu d'être classé avec Causses et Cévennes sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Les cités templières et hospitalières de Sainte-Eulalie de Cernon, la Couvertoirade, la Cavalerie et le Viala du Pas-de-Jau n'y sont peut-être pas pour rien. Au Moyen-Âge, les templiers et les hospitaliers ont profondément marqué l'organisation du Larzac dans le but d'optimiser l'exploitation agricole des terres. La richesse ainsi créée a permis pendant des siècles à ces ordres religieux et militaires de subvenir aux besoins des croisés. Alors, qui sont donc ces templiers et ces hospitaliers qui nous ont légué ce patrimoine exceptionnel organisé autour de la commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon ? Réponse de Jacques Miquel, historien du conservatoire Larzac Templier et Hospitalier.
Les ordres religieux et militaires apparaissent dans un contexte très précis qui est celui de la croisade. C'est à ce moment-là, après la prise de Jérusalem en 1099, dont le pape Urbain II, en 1095, était parvenu à ses oreilles des demandes des chrétiens d'Orient qui s'estimaient lésés par les musulmans et qui demandaient une aide du pape à Rome. Donc, un mouvement va s'organiser pour aller les secourir, qu'on va appeler croisade, qui va partir en 1097 et en 1099, prise de Jérusalem. L'objectif, c'était d'aller prier sur le tombeau du Christ, dans le Saint-Sépulcre. Et là, une partie de ses participants, de ses chevaliers, mais aussi des gens du peuple, vont repartir en Occident. Et une autre partie va s'installer et va fonder des États. Et ces États, on les appelle les États latins. Alors, ces États latins, c'est d'abord le royaume de Jérusalem. Également, un peu plus haut, il y avait la principauté d'Antioche. Le comté de Tripoli, qui appartenait au comte de Toulouse. Et notre petit comté, le comté d'Édesse. Alors, c'est dans ce contexte que vont apparaître les ordres religieux et militaires, à Jérusalem. Et en 1113, le pape donne une bulle, un nouvel ordre, qui est l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est le premier de ces ordres qu'on va appeler des ordres religieux et militaires. Alors, les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ce sont des chevaliers qui vont reprendre un ancien hôpital qui se trouvait juste en face de Saint-Sépulcre. Depuis le IVe siècle, avec des hauts et des bas, mais il y aura toujours des pèlerins qui vont venir sur le tombeau du Christ. Dans des conditions assez difficiles, il faut imaginer le voyage à l'époque depuis l'Europe, c'était vraiment pas simple. Et là, ils trouvaient un accueil, ils pouvaient être hébergés, ils pouvaient être soignés s'ils étaient malades, on leur donnait à manger, pratiquer les aumônes. Et c'est ce que vont faire les hospitaliers, donc mission d'hospitalité de Saint-Jean de Jérusalem. Et cet ordre est reconnu par le pape en 1113. Et un peu plus tard, on va voir apparaître, autant qu'on ait des sources, parce qu'on a très peu de sources sur les origines des Templiers, d'autres chevaliers qui étaient probablement des chevaliers qui assuraient la protection du Saint-Sépulcre. Il y avait des chanoines, les chanoines du Saint-Sépulcre, qui géraient le Saint-Sépulcre et qui avaient souvent payé des chevaliers pour assurer la sécurité des lieux dans Jérusalem. Et ces chevaliers vont vouloir élargir leur mission à une mission un peu plus importante, plus générale, de protection des routes. Parce que si le royaume de Jérusalem est fondé en 1099, le territoire va être petit à petit conquis sur les musulmans. Alors ces chevaliers vont décider d'assurer la sécurité sur les routes. Donc ils vont construire des petits châteaux, des fortins, puisque les pèlerins, les voyageurs en général, tous ceux qui viennent dans ces états latins, arrivent par bateau. Et entre Jaffa, qui est le port principal, port de débarquement, et Haïfa, un peu plus au nord, et Jérusalem, il y a 50 km, dans un détroit assez dangereux d'ailleurs. Et donc ils vont assurer cette sécurité également sur les autres lieux de pèlerinage.
Grand site. À la découverte de Midi-Pyrénées.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle ordre religieux et militaire ? Alors, tout d'abord, la caractéristique de ces ordres religieux et militaires, ce sont donc des religieux qui vivent dans un couvent. qui suivent un mode de vie classique qu'on met dans le couvent, qui suivent une règle, donc avec un office par jour. Il y a 10 heures canoniales, les heures canoniales sont les heures où on se réunit pour réciter des prières, et ils suivent tous les préceptes, prêtent les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et ils mènent une vie dans un couvent. Alors ce qui est caractéristique des ordres religieux et militaires, c'est un ordre religieux. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils ne recrutent que parmi les chevaliers. Et ça sera le cas jusqu'à l'ordre de Malte, qui est le successeur des Templiers des Hospitaliers jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et également, le troisième point, c'est que ces chevaliers, qui sont des religieux, vont être amenés à se battre. Alors ça va poser un petit problème à l'Église, puisque un religieux ne se bat pas, il ne peut pas tuer un autre homme. Pourquoi ils vont se battre? Parce qu'à ce moment-là, les États latins commencent à craquer. C'est à partir du moment où les musulmans vont se regrouper. Il faut savoir que sur ces territoires, pour un Européen, il y a 9 musulmans, par exemple. Donc ils sont en très faible minorité. Donc grâce aux commanderies qu'ils possèdent en Occident, qui leur permet un recrutement, qui permet également d'assurer des revenus assez importants, les ordres vont s'organiser militairement. C'est pour ça qu'on les appelle ordres religieux et militaires. Mais c'est d'abord des ordres religieux qui vont se battre en cas de nécessité. Le but des chevaliers en Terre Sainte, c'est de tenir des châteaux. C'est grâce à ces châteaux qu'on va tenir le pays. Et Templiers, Hospitaliers, Teutoniques vont vraiment constituer le fer de lance des armées de Jérusalem. Donc voilà la mission des ordres religieux et militaires qui va durer donc jusqu'à la chute des États latins, qui est la prise d'Acre en 1291.
Alors, donc on peut commencer la visite ici. Donc nous sommes donc devant les remparts nord du village de la Couvertoirade. Je me nomme Céline et nous allons visiter ensemble ce village de la Couvertoirade. Juste face à nous, nous pouvons observer les remparts, la fameuse courtine, à peu près de 10-12 mètres de hauteur, ces grandes tours, la tour carrée, le portal d'Amoun, la porte d'Amon du haut du village, et juste sur le côté droit, la tour ronde, la tour majeure. Alors bien sûr, des tours rondes, des tours carrées, cela vous intrigue. Il y a une explication bien sûr, c'est pas pour faire parler les bavards, quoique, mais en fait c'est d'un point de vue défensif. Alors la tour ronde se situe juste ici au niveau d'un angle, et un angle en effet au niveau défensif est très important parce qu'il est en avant. Et donc une tour ronde ne présente déjà pas d'angle mort et en plus est beaucoup plus solide en cas d'attaque, en cas d'impact. Alors qu'il est vrai qu'une tour carrée présentant des murs bien plats est beaucoup plus fragile en cas d'attaque. Donc du coup vous avez compris pourquoi cette tour est ronde sur votre droite. Par contre juste sur votre gauche, pourquoi celle-ci est carrée? Alors, quelques idées? Cette tour a été construite carrée pour accueillir la porte d'entrée du village. Alors il faut savoir qu'au XVe siècle, date de la construction des remparts du village, cette tour a été construite carrée parce que c'était beaucoup plus rapide à l'époque de mettre une porte dans une tour carrée que de mettre une porte dans une tour ronde. En fait, on maîtrisait la technique de mettre des portes dans les tours carrées, alors que le fait de mettre une porte dans une tour ronde, c'était très long et très fastidieux. Et du coup, le maître d'œuvre, Deodadalos, a préféré mettre des tours carrées au niveau des portes d'entrée du village. Alors si vous allez visiter d'ailleurs les autres villages du circuit culturel, la Cavalerie, Sainte-Eulalie de Cernon, eh bien vous allez retrouver le même type de fortification, des tours carrées au niveau des portes d'entrée et des tours rondes au niveau des angles. Alors cette tour carrée, je l'ai nommée déjà le portal d'Amoun, c'est en occitan bien sûr, ce n'est pas la porte de l'amour, ni la porte de la lune, c'est le portal d'Amoun, c'est la porte d'Amon, du haut du village. En effet, tout au long de la visite, on va sentir un petit dénivelé. En effet, lorsqu'il pleut, eh bien toute l'eau de pluie dégringole les ruelles du village et toute cette eau en fait va s'accumuler dans une fameuse lavogne. Les mares dans lesquelles les brebis viennent boire.
Bye.
Alors, quel lien entre la cité de pèlerinage et ces cités templières de Sainte-Eulalie de Cernon, la Couvertoirade, la Cavalerie et le Viala du Padjou ? Explication de Jacques Miquel.
Les commanderies sont extrêmement importantes puisque les commanderies en Occident, c'est la logistique économique et humaine. S'il n'y avait pas eu de commanderies, ces hommes n'auraient pas eu cette puissance militaire, cette puissance en hommes, en argent qui leur permettrait de participer à tous ces combats. Donc la commanderie de Sainte-Eulalie, effectivement, rentre dans toute cette logique. Alors il faut savoir que des commanderies, il y en a dans toute l'Europe, mais qu'il y a essentiellement beaucoup de commanderies dans ce qui est la France actuelle et qui était avant en partie le royaume de France. Quand on entend commanderie, on entend le territoire de la commanderie de Sainte-Eulalie, c'est-à-dire très exactement la commune de Sainte-Eulalie, la commune de la Cavalerie, la commune de la Couvertoirade et la commune du Vial du Padjou. Les limites des communes actuelles correspondent exactement à celles de la commanderie de Sainte-Eulalie. Donc c'est une commanderie très vaste, qui fait à peu près 17 000 hectares, qui est probablement une des plus vastes du sud de la France, et une des plus riches. Alors, sur ce territoire qui est très vaste, les Templiers vont immédiatement, et c'est ça qui est très spectaculaire, assurer le but. Donc, ils vont construire des agglomérations, dans le Sainte-Eulalie, à la commanderie. À la cavalerie, ils vont créer le village, ils vont également créer la Couvertoirade. Et ce sont les hospitaliers, après la dispersion des Templiers en 1312, qui vont créer le Vial du Padjou. Quel était l'aspect du Larzac sur ces territoires à l'époque où ils arrivent ? Il n'y avait pas sur le Larzac de grands villages, mais il y avait surtout des petites exploitations isolées, qu'on appelle des masses. Donc on avait un émiettement. On pratiquait de l'élevage dans les zones de parcours, comme c'est le cas actuellement. Et dans toutes les cuvettes où il y a un petit peu les dolines, ou les combes, où la terre s'était amassée, on pratiquait la culture des céréales. Mais tout ça de façon assez inorganisée. Donc les Templiers arrivent, leur but c'est de gérer au mieux ce territoire, c'est-à-dire d'en tirer le maximum de ressources. Donc ils vont regrouper, créer des villages et regrouper, semble-t-il pratiquement de force, les populations dans les villages actuels. Et les villages actuels, la Couvertoirade, de la Cavalerie et du Vial du Padjou, se trouvent au milieu de zones qu'on appelle des ségalas. Ils ne sont pas situés n'importe où. Les ségalas sont des zones de terre cultivables. Ces terres vont être réservées aux cultures des céréales. Les zones de parcours, où il y a déjà ciselés, où il y a des lavognes, sont laissées uniquement en pâture pour les ovins. Donc une transformation complète du paysage. Donc cette gestion extrêmement rigoureuse de la commanderie qui va se poursuivre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, lorsque la commanderie de Sainte-Eulalie va disparaître, au moment de la vente des biens nationaux, à partir de 1792, c'est à l'époque l'ordre de Malte qui succède aux hospitaliers, les hospitaliers reprenant les commanderies templières comme celle de Sainte-Eulalie lorsque les templiers seront supprimés en 1312, donc il y a 700 ans exactement, que l'ordre du temple a été supprimé.
Et oui, 700 ans, c'est pas rien. C'est un véritable voyage dans le passé que d'évoquer l'histoire, la puissance, le rôle de cette commanderie templière avec Jacques Miquel, où chacune des cités reste visible aujourd'hui sur ce plateau du Larzac. Sainte-Eulalie de Cernon, la Cavalerie, la tour du Viala du Padjou ou encore la Couvertoirade. Allez Céline, on continue la visite. Pourquoi ces remparts alors que Jérusalem est si loin ?
Les remparts du village ont été construits au cours du XVe siècle, pendant la grande guerre de 100 ans et plus, contre les Anglais. Et sur le Larzac, en fait, ce ne sont pas forcément les Anglais qui ont fait le plus de ravages, mais c'est ce qu'on appelait les routiers. Alors les routiers, non, ce ne sont pas les routiers auxquels vous pensez, messieurs, dames, ce sont les routiers du Moyen-Âge, ces mercenaires armés, qui étaient donc armés sur les routes, qui pillaient, qui mettaient tout à feu et à sang. Et la Couvertoirade était très souvent pillée, mise à feu et à sang. Du coup, les hospitaliers et les habitants du village ont décidé de fortifier l'ensemble du village par ces remparts, donc au cours du XVe siècle. Alors 4 années ont suffi pour construire les remparts du village. Alors en effet, c'est quand même très rapide, ben oui bien sûr, très rapide pour l'époque. En effet, il n'y avait pas tous ces engins actuels. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que beaucoup de maisons du village ont été à ce moment-là un petit peu détruites. Les maisons qui étaient un petit peu sur les écarts, qui étaient à l'écart du village, ont été détruites. On a récupéré les pierres de ces maisons pour donc construire au plus vite les remparts du village. C'est pour cette raison que vous observez, messieurs, dames, eh bien, différents types de pierres, différentes formes au niveau de l'appareil des remparts du village fortifié. Alors on peut s'approcher un petit peu et remarquer eh bien, tout ce qui est éléments défensifs. En effet, vous avez ces fameuses meurtrières, hein, ces fameuses ouvertures verticales qui étaient donc destinées aux arts. Balette, oui bien sûr, aux arbalètes, nous sommes au 15e siècle. On avait fait quelques trouvailles, hein, notamment l'arbalète, et puis également l'arme à feu. En effet, on voit au niveau des tours ces ouvertures arrondies, hein, qui étaient donc pour les canons, les tout premiers canons qu'on appelait plutôt les bâtons à feu à cette période. Ensuite, on retrouve eh bien, les fameux machicoulis en haut des tours, ces espaces par lesquels autrefois on laissait tout tomber, donc tout un tas de choses désagréables eh bien, pour chasser les assaillants. Alors rassurez-vous, on a fait quelques efforts hein, depuis le Moyen-Âge avec l'accueil. Normalement, on ne devrait rien ne se recevoir sur la tête. Enfin bon, on a fait quand même quelques efforts bien sûr.
Bon, je confirme, on ne reçoit rien sur la tête lorsque l'on visite ces cités templières du Larzac. À Sainte-Eulalie, la Couvertoirade, la Cavalerie ou le Viala du Pas-de-Jau, des équipes vous accueillent, vous renseignent aux offices de tourisme. Et pour les apprécier dans leur globalité, toutes ces cités templières, plutôt en groupe, il existe aussi un circuit complet, ça s'appelle les visites privilèges, et c'est proposé par le Conservatoire du Larzac Templier et Hospitalier et son historien passionné et passionnant, Jacques Miquel.
La commanderie de Sainte-Eulalie, dans son sens général, sur ce territoire, permet de voir une commanderie templière très importante et surtout qui a conservé son patrimoine pratiquement intact. C'est-à-dire on a des ensembles très bien conservés. La commanderie de Sainte-Eulalie, les bâtiments de la commanderie, donc autour d'une cour intérieure quadrangulaire, et dans l'état, pratiquement dans les cas à quelques détails près, où le dernier commandeur qui s'appelait Riquetti Mirabeau, au moment de la Révolution, aurait pu l'avoir. Bon, la cavalerie a beaucoup plus pâti, mais à la Couvertoirade, on a le château des Templiers, un véritable château. On a encore l'église des Templiers avec des remaniements et une grange, dont une jasse qui se trouve à l'extérieur et qui date de l'époque des Templiers. Nous avons des enceintes qui sont pratiquement intactes également. Donc Sainte-Eulalie, la cavalerie, elle a été restaurée. La Couvertoirade possède des enceintes villageoises pratiquement intactes. Et au Viala du Pas-de-Jau, à côté du logis des hospitaliers du XIVe siècle, qui est en train d'être rénové, on avait construit pour protéger les populations une grande tour fortifiée qui existe encore. Alors, ça permet d'avoir une vision très complète et je ne pense pas qu'il existe ailleurs en France ou peut-être en Europe une commanderie, ça, non seulement le bâtiment lui-même, mais tout un ensemble.
Alors, on va passer donc le porche de Louportal d'Amoun et on va se retrouver donc
au cœur de la cité.
Et oui, en plein cœur du Moyen-Âge. Ces quelques pas nous feront remonter le temps. Et en effet, juste derrière ces remparts, nous apercevons donc tout plein de maisons blotties, les unes donc un petit peu collées aux autres. Et on retrouve aussi, bien sûr, le saint patron du village, juste derrière le porche de l'entrée, ce petit personnage, hein, cette sculpture qui représente eh bien Saint Christophe. Saint Christophe, c'est le saint patron de la Couvertoirade. En effet, ce village eh bien, était très souvent attaqué. Du coup, les habitants, lorsqu'ils quittaient les remparts du village, lorsqu'ils quittaient la sécurité, eh bien, lui faisaient une petite prière pour que Saint Christophe les protège tout au long de leur voyage. Alors aujourd'hui, plus trop d'attaques, hein, normalement. Mais c'est vrai qu'on a gardé Saint-Christophe eh bien, pour qu'il protège toutes les personnes qui viennent visiter ce village. Alors en effet, l'année dernière, il y a à peu près 260 000 personnes qui sont venues visiter ce village. Et donc on a gardé ce saint patron pour qu'il vous protège, messieurs et dames, tout au long de votre voyage.
Personnes à la Couvertoirade en 2011, c'est beaucoup. Et la Couvertoirade représente à peu près la moitié des visiteurs des cités templières du Larzac. On comprend aussi par la beauté des sites, celle de l'environnement, propice à la randonnée, la découverte de la faune, de la flore, le calme. Les cités templières et hospitalières de Sainte-Eulalie de Cernon, la Cavalerie, la Couvertoirade et le Viala du Pas-de-Jau, témoin d'une histoire riche et tumultueuse, ne cesse de fasciner, bien ancré sur le plateau calcaire du Larzac, dans l'Aveyron, et qui sait, pour quelques siècles encore.